France Inter. Historien spécialiste de la Première Guerre mondiale, Stéphane Audouin-Rouzeau est directeur d'études à l'EHESS en anthropologie historique du combat et de la violence de guerre au XXe siècle, président du Centre international de recherche de l'Historial de la Grande Guerre à Péronne et l'auteur d'une multitude d'ouvrages et d'articles consacrés à ces champs de recherche, parmi lesquels « Les combattants des tranchées »,« L'enfant de l'ennemi, viol, avortement, infanticide pendant la Grande Guerre », Quelle histoire, un récit de filiation, réédité avec un texte inédit intitulé Du côté des femmes, ou encore Combattre, une anthropologie historique de la guerre moderne. L'agrégé d'histoire et diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris a dirigé avec Jean-Jacques Becker l'encyclopédie de la Grande Guerre chez Bayard et a également élargi ses recherches à la question du génocide des Tutsis en publiant notamment Une initiation, Rwanda, 1994-2016. Il vient de faire paraître Notre déni de guerre aux éditions du Seuil, court essai qui s'interroge sur l'aveuglement général concernant les risques de conflits actuels au regard de la guerre déjà présente sur notre continent. Nous n'avons pas su voir les indices et avons cru que si nous ne désignions pas d'ennemi, un ennemi ne pourrait pas non plus nous désigner comme tel, comme c'est le cas selon l'auteur depuis l'invasion en février 2022 à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Stéphane Audouin-Rouzeau.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé, bien que nous nous apprêtions à parler de guerre pendant près d'une heure?
J'ai revu très récemment le Molière d'Ariane Nouchkine et le final de la mort de Molière, montant les escaliers sur l'air, le fameux air du froid. C'était un moment de cinéma absolument inoubliable. J'avais vu trop tôt, c'est maintenant seulement que j'arrive à comprendre ce qu'il y a dedans.
Oui, ça arrive souvent d'être trop précoce pour une œuvre.
Évidemment, ça arrive même tout le temps.
Alors vous, justement, en parlant de temporalité, vous avez mis longtemps à expliciter le lien qui vous attachait à la Grande Guerre. Vous le faites dans quelle histoire, un récit de filiation, via un grand-père que vous n'avez pas connu et votre père qui n'avait pas compris la guerre de son propre père.
Oui, c'est un peu un hasard. C'est un livre qui a paru il y a 10 ans maintenant, plus ou moins à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre. Donc, c'était un ami qui, à l'école des hautes études, dirigeait les éditions, qui me dit « On voudrait quand même un livre de toi pour le centenaire de la Grande Guerre ». Ça m'a vraiment accablé. Et donc, pour m'en sortir, j'ai dit « Tiens, j'ai fait un projet d'une page, je pourrais faire quelque chose sur, disons, la manière dont la Grande Guerre a percuté ma propre famille ». J'étais bien persuadé que le projet serait refusé, que je serais comme ça, bien tranquille. Et c'est pas ce qui s'est passé. Et effectivement, je savais tout ce que j'ai écrit, je le savais en quelque sorte, je l'avais dans les moelles ou dans les mains, mais jamais je m'étais vraiment confronté. Donc j'ai essayé de le faire. C'est un livre qui c'est pas moi qui l'ai écrit, il s'est écrit tout seul.
Vous dites que c'est à la fin de votre parcours de chercheur que vous avez fini par comprendre à quel point vous étiez lié à vos sujets de recherche. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur Robert Audouin, qui était votre grand-père, sous-lieutenant d'artillerie pendant la Grande Guerre, et qui est revenu sans blessure apparente?
Oui, Robert Audouin, c'est donc mon grand-père, effectivement, que je n'ai jamais connu, et qui, jeune bachelier, de milieu bourgeois, est pris dans les filets de la guerre, comme tant d'hommes de sa génération, et monte comme aspirant, monte en ligne pendant ce qu'on appelle la seconde bataille de la Somme, au mois d'août 1916. Il entre en ligne pour la première fois, ce qu'on appelle le baptême du feu, de nuit, avec sa batterie d'artillerie, donc dans une fournaise qui est la plus grande bataille, en fait, on le sait peu en France, la plus grande bataille du XXe siècle. Et là, il subit un bombardement de nuit, à découvert, première expérience, et c'est un choc inouï pour ce jeune homme. Il a survécu néanmoins à cette catastrophe, il survit à la guerre, il en revient apparemment indemne.
On l'accueille comme un héros.
Décoré, sous-lieutenant, tout ça, on l'accueille. Alors, évidemment, on l'accueille comme un héros, il se marie, et là commence la catastrophe. Catastrophe personnelle, catastrophe professionnelle, catastrophe dont il n'avait aucun moyen de comprendre les ressorts profonds. Et autour de lui, personne non plus. Ni son épouse, et encore moins son fils, mon père, hein, né en 24. Et donc, c'est ainsi que Robert Audouin donc, n'a jamais compris, finalement, la guerre qu'il avait faite, dans une certaine mesure. Et mon père, bien pire, qui était proche du mouvement surréaliste, proche d'André Breton, avait tous les outils pour ne pas comprendre. La guerre étant... et l'expérience de guerre et toute empathie pour les vétérans étant absolument exclue du champ.
Vous dites que quand vous avez enfin compris votre père, vous avez été éperdu de regret.
Éperdu de regret de n'avoir pas compris plus tôt ce qui s'était joué pour mon père dans un moment particulier, une défaite particulière qui se joue en 68-69, pour beaucoup d'ailleurs des derniers surréalistes donc, qui avaient accompagné André Breton jusqu'à sa mort.
Votre père écrivait, il était écrivain surréaliste aussi.
Et là, c'est-à-dire à la fois l'échec de mai 68, ensuite l'échec du printemps de Prague, auquel les surréalistes étaient très liés, donc à la fin du mois d'août 68. Voilà, et ensuite l'approbation par Fidel Castro de l'intervention des troupes du pacte de Varsovie à Prague, en 68. Donc trois effondrements, trois déceptions politiques, dont mon père ne s'est jamais remis.
Vous dites que vous avez attrapé le problème dans son centre, là où ça fait mal, le deuil, la violence, les traumatismes, les blessures.
Je pense que la guerre, en général, doit pas être regardée de trop loin, en la mettant à distance, et c'est pour ça que je ne suis pas du tout géopoliticien, par exemple. Parce que si on veut s'intéresser à ces sujets, moi je crois qu'il faut s'y intéresser. On ne peut pas les contourner, ils sont importants, très importants. Eh bien, il faut les regarder, effectivement, là où c'est le plus difficile. Donc, ce que j'appelle le ras du sol, c'est évidemment la violence, la cruauté, la mort, la blessure, la douleur, enfin bref, tout ce qu'entraîne la guerre pour les combattants et pour les non-combattants aussi, bien sûr, pour les civils, pour les prisonniers. Si on ne regarde pas ça, d'abord, à mon avis, on ne regarde pas la guerre, il faut mieux faire autre chose.
Ni la société, d'ailleurs.
Ni la société, bien sûr. On ne comprend pas, à ce moment-là, ce qui se joue dans une société qui fait face à la guerre, et en particulier la guerre moderne, c'est-à-dire qui apparaît au début du XXe siècle, qui traverse littéralement les sociétés en les transformant de fond en comble.
Pensez-vous toujours qu'il faille justifier son intérêt pour la guerre quand on est un chercheur dans ce champ ?
Oui, plus ou moins. J'ai mis longtemps à comprendre que quand on s'occupe de la guerre, surtout de la manière dont moi je m'en occupe, c'est-à-dire la violence, la cruauté, les corps, les souffrances, le deuil, etc., eh bien on est toujours soupçonné, toujours. Au fond, de se complaire dans son sujet et, au fond, cette guerre que l'on étudie, qui sont toujours des événements du passé ou d'un présent qui déjà a basculé dans le passé, que la guerre que l'on étudie, au fond, on l'annonce. On souhaite, d'une certaine manière, son retour sous une autre forme. Et donc, on est celui qui annonce,
Cassandre.
On est celui qui annonce la mauvaise nouvelle. Et ça, évidemment, ça crée avec vos auditoires, surtout à l'oral d'ailleurs, bizarrement, plus qu'à l'écrit. Parce qu'à l'écrit, on peut éviter davantage, on peut éviter un texte, on peut éviter de lire un livre, tout simplement. Il y a des gens qui ne lisent jamais un livre sur la guerre, voilà, donc comme ça, c'est réglé. Mais un auditoire, vous voyez, les gens sont plus ou moins un cours, une conférence, les gens ne savent pas exactement forcément à quoi s'attendre. Et là, vous sentez un froid, une désapprobation qui est très puissante, qui s'aggrave si en plus vous appuyez sur les images, c'est très frappant. Alors c'est très net quand vous parlez d'un génocide comme celui des Tutsis rwandais, par exemple, où moi je ne montre pratiquement jamais d'images à cause de ça. Et donc il faut passer ce cap de la suspicion. Et c'est très difficile. C'est très difficile. Cette suspicion, en fait, n'est pas un à côté du sujet, elle est le sujet.
Vous êtes-vous déjà vous-même interrogé à ce sujet ?
Bien sûr. Pourquoi je fais ça ? Est-ce que c'est normal, au fond, pour un historien, il y a tant de sujets possibles. Il y a tant de sujets. Pourquoi ? Moi, je n'aurais eu qu'un seul sujet, toute ma vie professionnelle et ma vie tout court, d'ailleurs. C'est cette question de la guerre, de sa violence. Je ne crois pas que ça m'aurait intéressé d'être historien d'autre chose. Je respecte, évidemment, le travail des autres, mais je ne crois pas que, compte tenu de l'investissement, représente carrière, un travail de chercheur. Voilà, il y a des sujets qui, la plupart des sujets ne me paraissent pas valoir la peine. Tandis que celui-là, malheureusement, vaut la peine.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Stéphane Audouin-Rouzeau, en parlant de combat, vous qui êtes notamment l'auteur de Combattre, une anthropologie historique de la guerre moderne, vous êtes 4e ou 5e dan de karaté, non ?
Comment vous savez-vous une chose pareille ?
Mais parce que je suis détective privé, les invités sont toujours surpris, ouais, mais vous vous livrez dans les articles.
Oui, ça fait maintenant plus de 50 ans que je pratique un karaté traditionnel.
Le Shotokan.
Shotokan traditionnel, donc...
Puisque vous avez une karatéka face à vous aussi.
Ah ouais, d'accord, je vous en félicite.
Mais non, d'un niveau bien moindre.
Je vous en félicite. Mais vous n'avez pas 50 ans d'entraînement comme
vous
moi.
Vous ne savez pas.
Non, je ne me racontais pas d'histoire. Et en fait, c'est voilà, je pense que c'est une pratique qui m'a beaucoup apporté aussi, comment le dire, intellectuellement.
Comment ça, intellectuellement ?
D'abord parce que en termes de concentration, d'abord, ça, c'est une chose, de capacité à l'effort que représente l'écriture d'un livre, par exemple, dans la durée, mais aussi parce que j'ai pris conscience, en fait, que le karaté, que ce karaté-là, capté, si je puis dire, par un maître qui est jeune étudiant au Japon en 1948 à l'université Waseda, avait été profondément influencé par la période de guerre qu'a connu le Japon entre 1905 et 1945, pendant 40 années.
Et puis c'est l'art de la main vide, voilà, étymologiquement.
Mais le karaté japonisé, par maître Funakoshi, et amené au Japon au début des années 20, a été profondément influencé par une société japonaise, qui est une société qui non seulement est en guerre, mais qui est de plus en plus profondément en guerre, et que au sortir de cette guerre, avec toutes les villes japonaises détruites, une population, voilà le choc terrible qu'a été donc la défaite, l'occupation, aller voir comment survivaient littéralement les Japonais après 45, le karaté qui au fond survit à ce moment-là, est un karaté qui a été extraordinairement brutalisé en fait par l'expérience de guerre. Et c'est celui-là, au fond, qui nous a été, par le maître dont je parlais à l'instant, qui s'appelait Tsutomu Oshima, qui est encore vivant d'ailleurs, c'est ce karaté-là qui nous a été transmis. Et donc, il y a un lien
entre
expérience
civiles.
Entre guerre et au fond, cette expérience corporelle, qui n'est pas seulement une expérience sportive.
C'était donc les populations civiles qui s'en servaient pour se défendre, et notamment sans armes ou avec des armes pour labourer, des armes d'agriculture.
Oui, ça a toujours été une pratique martiale au sens strict du terme.
En avez-vous usé ?
Jamais.
C'est parce que vous
J'en suis fort heureux.
Vous êtes 4e dan ?
5e.
5e dan. D'accord, parce que j'ai fait une recherche. Je vous ai chené. Qu'est-ce qui vous intéresse tant dans le corps, puisque vous étudiez la guerre dans une perspective anthropologique, par son aspect physique et culturel, et vous vous intéressez beaucoup au corps.
Je pense que la guerre, si on veut donc la regarder par là où je la regarde, il y a sans doute d'autres moyens. La guerre, c'est une expérience corporelle. D'abord, expérience corporelle des soldats, et une expérience corporelle comme il n'y en a en fait pas de plus épuisante, pas de plus fatigante, pas de plus dangereuse pour le corps humain, donc ça justifie quand même de s'y intéresser un peu. Et c'est une expérience corporelle aussi pour les civils, évidemment. Qu'on songe aux civils ukrainiens actuellement, vivant à moins 30, c'est une expérience corporelle, d'abord. Les civils en situation d'exode, enfermés dans des camps, etc. On revient toujours à la question du corps. Et donc, si on esquive cette question du corps, qui n'est pas très facile à documenter, parce que le corps a c'est une fausse évidence, le corps. On en a tous un, donc il n'y a rien à en dire. Alors que justement, il y a à en dire. Et c'est une fausse évidence aussi parce qu'on pense que dans l'histoire, les corps sont toujours identiques. Rien n'est plus faux. Le corps d'un, même à un siècle de distance, le corps d'un soldat de 14 n'a rien à voir avec nos corps. Et donc, il y a tout un travail à faire sur les corps, et c'est un travail qui n'est pas simple, parce que les corps, en quelque sorte, comme objet historique, et dans leur évolution historique aussi, les corps se dissimulent.
Quelle est la différence majeure entre un corps de la Première Guerre mondiale et un corps d'aujourd'hui ?
D'abord, la silhouette est beaucoup plus trapue pour la Première Guerre mondiale. Les hommes et les femmes du début du siècle faisaient pratiquement 20 cm en moins, premier point. Deuxième point, les capacités physiques. Le corps, c'est pas un mannequin. Il y a les capacités physiques, il y a la gestuelle. Les gestuelles ne sont pas du tout les mêmes. un corps de soldats de 1914. Ces soldats de 14 ont été capables, par exemple, pendant la bataille des frontières d'août 14, d'effectuer des parcours à pied, avec, en pleine chaleur, avec leurs sacs, leurs fusils, et tout en combattant, des parcours d'une longueur que seuls aujourd'hui des soldats des forces spéciales ultra-entraînés pourraient sans doute assumer. En revanche, ces mêmes soldats, la plupart se seraient noyés si on leur avait demandé de traverser une rivière à la nage. Et donc on voit bien, hein, on voit bien que leurs corps ne sont pas nos corps. Et il faut donc tout un effort pour le comprendre. Alors, les seuils de douleur ne sont pas les mêmes non plus. Leur manière de souffrir n'est pas du tout la même. Leur manière d'endurer la souffrance n'est absolument pas la même. Etc. Et on pourrait multiplier les exemples de cette sorte.
Vous soulevez que, en tant qu'être humain, nous sommes psychiquement équipés pour la violence, qui est fort paradoxal, compte tenu de la faiblesse extrême de notre corps par rapport à d'autres mammifères du monde animal. Là, je pense à votre sœur, Fred Vargas, qui est romancière, mais aussi archéozoologue et, vous me l'avez dit tout à l'heure, ostéologue, donc qui, elle, peut, à partir d'un petit haut de n'importe quel mammifère, savoir de qui, quel mammifère il s'agit. Mais vous dites aussi que nous sommes contradictoirement, magnifiquement équipés pour la socialité.
Oui, nous avons les deux aspects en nous, je crois. Je pense que tout anthropologue serait d'accord avec moi. Nous sommes équipés, effectivement, pour la violence, y compris la violence extrême, pour la cruauté.
Quand vous dites équipés, qu'est-ce que ça veut dire ?
Équipés, c'est-à-dire que nous sommes capables de la penser, de l'organiser, de l'assumer, et de la prendre en charge et de la pratiquer. Et de nous donner d'excellentes raisons de le faire. Et en même temps, effectivement, nous sommes parfaitement équipés pour la socialité, pour l'entraide, pour la compassion. Et c'est cette part de diable, cette part d'ange en nous qui cohabitent et qui font évidemment les déceptions et les aspects, au contraire, tellement merveilleux et encourageants de l'espèce sapiens que nous sommes.
Alors, question à l'historien, y a-t-il des cycles dans l'histoire et pouvons-nous, si c'est le cas, en tirer un enseignement quelconque afin de ne pas répéter les mêmes erreurs ? J'aimerais que la réponse soit positive, mais j'en doute sincèrement.
Je pense que je ne vais pas vous faire une réponse positive parce que ça impliquerait de prévoir l'avenir.
Oui, l'histoire ne se répète pas, finalement.
L'histoire n'a aucune capacité donc prévisionnelle, donc je ne peux pas m'engager là-dedans. En revanche, on voit bien effectivement des cycles. Par exemple, le 19e siècle est un moment, après les guerres napoléoniennes, un moment plutôt de pacification, en Europe en tout cas, des relations internationales. Et malheureusement, la première moitié du XXe siècle, comme nous le savons, a été un moment d'extraordinaire tension, d'invention d'un nouveau modèle de guerre. C'est pas tout à fait rien, hein, ce qu'on appelle la guerre totale. Et il n'est pas certain que nous soyons sortis de ce cycle aujourd'hui. C'est la question qui se pose à notre époque en ce moment même.
Le nom de la Première Guerre mondiale, les noms de la Première Guerre mondiale ne sont pas sans intérêt. Dans un premier temps, elle s'est appelée la guerre de 1914, tout simplement, comme on avait l'habitude. Ensuite, elle s'est appelée la Grande Guerre. Et elle a conservé ce nom pratiquement jusque la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi la Grande Guerre ? Parce que très tôt, l'idée que ce conflit avait eu une importance exceptionnelle s'était développé. Et compte tenu des conséquences de l'événement, eh bien, il n'était pas en soi anormal de parler d'une très grande guerre.
Stéphane Audouin-Rouzeau, vous êtes président du Centre international de recherche de l'historial de la Grande Guerre à Péronne dans la Somme, qui a ouvert en 92. Jean-Jacques Becker, disparu en 2023 et qu'on entend en 95 sur France Culture, en était le président d'honneur. C'est lui qui a dirigé votre thèse. Et avec lui et Annette Becker, vous avez fortement contribué à renouveler l'historiographie de la Première Guerre mondiale. Je crois que c'est même de lui que vous tirez une certaine sensibilité à une histoire d'en bas, dites-vous.
Oui, c'est vrai. J'ai rencontré, c'était très émouvant pour moi d'entendre la voix de Jean-Jacques Becker, donc là, dans le studio. J'ai rencontré Jean-Jacques Becker à l'université de Nanterre, de Paris-Nanterre, donc à la fin des années 70. Et j'avais été très, très frappé à cette époque par la dimension très concrète de l'histoire qu'il écrivait. Ça m'a plu. Et en outre, c'était il était spécialiste de la Première Guerre mondiale, il venait de finir sa thèse d'État, à l'époque il y avait des thèses d'État, sur l'entrée en guerre de la France, voilà, août 14, comment les Français sont entrés dans la guerre, qui est une très grande thèse, qui tient toujours. Et Jean-Jacques Becker, donc, incarnait, voilà, en quelque sorte, un sujet que je croyais complètement disparu. À l'époque, il n'y avait rien, vous voyez, c'est ça qui m'a plu. C'est ça qui m'a plu aussi, c'est que on pouvait s'engager avec un maître, je l'appelais maître Jean-Jacques, on pouvait s'engager avec un maître dont la manière de faire de l'histoire me plaisait beaucoup, et sur un terrain entièrement libre sur lequel on pouvait inventer tous les sujets possibles. C'est complètement différent aujourd'hui, où vous glissez dans les interstices pour trouver un sujet vacant, en quelque sorte. Avec là, c'était pas du tout le cas. Et on a eu, avec Jean-Jacques Becker, une complicité de longue durée, hein, qui a été un des aspects les plus merveilleux de ma vie d'historien.
Je vais balayer quelques jalons de cette vie d'historien avant de parler de votre dernier ouvrage, si vous me le permettez, parce que j'aime bien mettre en contexte le parcours de l'invité avant de nous intéresser
comme vous voudrez
à la dernière sortie. Eh bien, c'était ainsi que je le veux. Justement, parlant de vouloir, vous avez défini avec d'autres historiens, français, allemands, anglais, le concept de consentement patriotique. De quoi s'agit-il ?
À dire vrai, plutôt de consentement que de consentement patriotique. Un consentement patriotique, c'est la manière dont cette manière de dire, en quelque sorte, a été critiquée par d'autres collègues historiens. Consentement, parce que le consentement n'est pas seulement patriotique, en fait.
Mais dans la guerre.
Consentement à la guerre. Il s'agissait de dire que les Français, les Britanniques, les Allemands, enfin, qui étaient les trois grandes puissances de l'époque, au fond, avaient consenti à la guerre. Elles ont consenti à l'entrée en guerre. Ça, c'est indiscutable. Personne ne peut le discuter. Et mon avis, celui d'Annette Becker, avec qui j'ai beaucoup écrit, celui de Jean-Jacques Becker, le mien, etc., c'est que ce consentement s'était maintenu pendant la guerre, avec évidemment des moments de faiblesse, des moments de remise en cause, etc., mais qui s'était maintenu, et qu'au fond, le consentement initial de l'été 14 avait eu ce qu'on pourrait appeler la force des commencements. C'est-à-dire qu'il surdétermine ensuite ce que vont ressentir, penser, la manière de se représenter la guerre des contemporains. Et alors ce consentement, vous sentez bien dire que voilà, qu'il y a eu consentement, peut provoquer, notamment pouvait provoquer dans une historiographie ancrée à gauche, très pacifiste, etc., pouvait provoquer une forme de révolte, en fait, en disant, mais enfin non, les contemporains, au fond, ont été contraints de différentes manières de se plier à la guerre. Ouais, je pense, et j'ai toujours pensé, je continue de penser, que il n'était pas possible de contraindre pendant 4 ans et demi les sociétés européennes donc à poursuivre le conflit compte tenu des sacrifices des sacrifices induits par la guerre, et l'expérience de l'Ukraine depuis 2022 nous montre ça. Si on veut voir une société consentante à la guerre en 2022, eh ben on n'a qu'à regarder l'expérience de l'Ukraine après le 24 février.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Stéphane Audouin-Rouzeau, ce soir avec vous, on parle de guerre. Quand vous préfacez et que vous commentez Un regard sur la Grande Guerre avec les photographies inédites du soldat Marcel Felzer, retrouvé par miracle dans des boîtes en fer, sachant qu'il a pris part aux deux guerres du XXe siècle, c'est un résistant mort en déportation, et que vous lisez sa dernière lettre de Buchenwald, qui s'achève par ces mots « foi, courage, espérance, confiance », est-ce que vous trouvez ça absurde ou beau ?
Je trouve ça très beau. Je trouve ça magnifique même. Je vois pas pourquoi. Olivier Rollin, je crois, qui dans un de ses ouvrages disait, il y a quelque chose de répugnant dans notre époque, c'est la répudiation à laquelle nous adonnons, la répudiation de tout héroïsme. Au nom de quoi ?
Mais l'ironie qui règne aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus d'idéaux.
Eh bien, d'abord, il serait souhaitable qu'il y en ait davantage. Et puis, deuxièmement, qui sommes-nous ? Qui sommes-nous pour répudier cet héroïsme de gens qui l'ont payé de leur vie, qui l'ont payé de leur sang ? Qui sommes-nous ? Je crois que poser la question, c'est y répondre.
Je crois qu'on l'entend bien. Est-ce que vous pouvez parler de la rupture après 1945 et aussi à partir de 1997, quand Jacques Chirac contribue à la déprise de la guerre dans la société ? Parce qu'il y a une démilitarisation de nos sociétés, et vous donnez des chiffres dans l'ouvrage dont on va parler dans quelques instants, assez effrayants.
Effrayant, oui, ça dépend.
Ça dépend, oui.
Ça dépend de quel point de vue on se place, oui. C'est vrai qu'après 45, il s'est produit quelque chose d'inouï en Europe occidentale en particulier. C'est ce que j'appelle la déprise de la guerre. C'est-à-dire, non seulement le fait qu'il n'y a plus de guerre ouverte en Europe, elle s'est terminée, mais nous voulons penser qu'il n'y en aura plus jamais. Ce qui était la réalisation d'un très vieux rêve, d'une très vieille croyance dont on trouve les premières traces au XVIe siècle, peut-être même avant. Et au fond, les deux guerres mondiales, loin de détruire au fond cette croyance, la renforcent. Ce qui est vraiment très, très étonnant, très paradoxal, mais c'est ainsi. Mais néanmoins, le port des armes, le service militaire, c'est maintenu. Et puis, effectivement, fin des années 90, dans le contexte post-effondrement de la guerre... post-guerre froide et post-effondrement de l'Union soviétique, on met fin au service militaire, c'est-à-dire qu'on brise le lien ancien, en France, entre citoyenneté masculine et port des armes. Et ceci a été défendu avec des tas d'arguments rationnels, mais qui tous, quand on y repense, montrent qu'on ne pensait plus possible d'avoir besoin d'effectifs importants, et notamment d'effectifs militaires importants, et notamment en Europe. Et donc c'était un calcul sur l'avenir qui, comme toujours, est très dangereux. Et maintenant, nous sommes face aux conséquences de ce calcul.
Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé autant aux hommes qu'aux non-humains, comme les objets ou les paysages, je pense à vos livres Cicatrices, par exemple, ou Les armes et la chair, trois objets de mort en 14-18 ?
Les objets ne sont pas non-humains, ils sont d'abord humains. D'abord, ils sont fabriqués par les humains. Un champ de bataille moderne, c'est-à-dire depuis le début du XXe siècle, est un objet profondément humain,
Aux inanimés, disons.
Inanimés, c'est autre chose, bien sûr. C'est autre chose. Il m'a semblé que si on regardait par le fait guerrier, ce que j'appelle le fait guerrier, qui est une formulation anthropologique, si on regarde le fait guerrier du côté des objets que laisse la guerre, que les acteurs sociaux fabriquent pendant la guerre, pour des tas de raisons, on entre dans une autre dimension du fait guerrier, justement. On sort, ce qui est important pour un historien, on sort des archives écrites qui sont surabondantes au XXe siècle sur la guerre. On peut se noyer dedans. Et on va vers ce que les anthropologues appellent les matérialités. Et c'est une autre guerre à ce moment-là qui apparaît. Visiter les champs de bataille, regarder les armes fabriquées par les soldats, leurs mains, regarder ce qu'on appelle l'artisanat tranché, le trench art, comme disent les Britanniques, c'est entrer dans une autre dimension de l'activité guerrière.
S'il y a une chose dont j'ai eu l'intuition en faisant l'Encyclopédie des guerres, c'est qu'on n'entre jamais en guerre et on n'en sort jamais. Voilà, c'est comme le fleuve d'Héraclite. Déclarer la guerre, ça veut dire une chose qu'on croit comprendre, à savoir qu'il y aurait un temps où la paix existe et puis soudain on déciderait qu'on passerait à un autre régime qui serait son contraire. Mais c'est absolument pas ça la réalité. Déclarer, c'est d'une famille de verbes qui veut dire éclairer. Il y a la guerre et soudain on décide de l'éclairer, de la mettre en lumière. La guerre, elle a toujours existé entre toutes les nations, malheureusement. Donc éclairer la guerre, déclarer la guerre, c'est juste reconnaître que c'est un continuum morbide qui n'a pas d'exception. Donc, moi, comme vous, je n'ai connu que la guerre, pourrais-je dire, sans la fréquenter.
On entend l'écrivain et critique Jean-Yves Joinet dans la 20e heure récemment. Stéphane Audouin-Rouzeau, êtes-vous d'accord avec ces propos qui sont assez inédits ?
Oui et non. Oui, en ce sens que, au fond, effectivement, la guerre n'a jamais disparu de nos horizons d'attente en réalité. Voilà, elle est une activité politique. Nous sommes des sociétés politiques. Et donc, la guerre est toujours, finalement, dans les cartes, comme moyen à disposition des sociétés politiques et des États. En même temps, je pense que cette vision d'un continuum entre la paix apparente et puis la guerre quand elle advient, néglige un point essentiel, en tout cas pour moi essentiel, qui est la question du temps. À mon avis, il y a un temps de paix, effectivement, un temps. C'est-à-dire, nous sommes des sociétés à haut niveau de pacification, comme disait le sociologue allemand Norbert Elias, et ceci existe. Et nous avons vécu dans ce temps, et en croyant que ce temps serait éternel depuis 1945. Et puis, il y a le temps de guerre. Et le temps de guerre, c'est l'entrée des acteurs sociaux, de nous tous, qu'on le veuille ou non, c'est d'entrer dans une temporalité, c'est-à-dire d'un temps vécu complètement différent, où nous ne nous retrouvons pas nous-mêmes, où nous ne nous reconnaissons pas nous-mêmes, dans nos réactions, nos choix, nos désirs, nos manières de parler, de penser, etc.
Et vous voyez des rationalités dans les deux temporalités.
Absolument. Il y a des rationalités propres dans le temps de paix et dans le temps de guerre. Et croire que... Je crois à la distinction des temps. Et c'est ce qui fait que, quand nous sommes en temps de paix, eh bien, nous avons énormément de mal à concevoir même ce qu'est le temps de guerre, et comment, si un temps de guerre, finalement, advenait, tout serait transformé de nous-mêmes et des situations auxquelles nous sommes habitués.
Alors, vous publiez Notre déni de guerre aux éditions du Seuil. Il faut dire qu'on parle souvent de la guerre en Ukraine en prenant la date 2022, ce qui est erroné, puisque, évidemment, elle a commencé avant. C'est l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Les premiers signes de la crise russo-ukrainienne, vous le rappelez bien dans votre ouvrage. 2008, invasion de la Géorgie. 2014, annexion de la Crimée, suivie du soutien militaire à l'insurrection du Donbass. Et intervention dans la guerre civile de Syrie en 2015. Pourquoi l'attaque russe de l'Ukraine a-t-elle été massivement considérée comme impossible, notamment par les experts? Et vous allez même jusqu'à dire que dire le contraire à ce moment-là vous isolait immédiatement.
Absolument, c'est vrai. Et parmi les experts, voilà, on a notamment, par exemple, Hélène Carrère-Dancos, voilà, mondialement connue, qui a littéralement vendu, notamment au pouvoir politique français, un Poutine rationnel et qui jamais ne ferait une telle erreur qu'attaquer l'Ukraine. On a vu la suite. Je pense que si nous n'avons pas voulu le voir, c'est parce qu'il nous était justement très difficile de concevoir le temps de guerre, c'est-à-dire de concevoir que l'adversaire, disons, que la Russie, qui était l'adversaire de l'Ukraine, mais aussi potentiellement notre adversaire, que l'adversaire, au fond, était lui entré dans un temps de guerre, et que ce temps de guerre faisait que notre argument sur la rationalité de l'acteur politique, qui est Vladimir Poutine, sur lequel évidemment la guerre n'aurait pas éclaté, eh bien, que cet argument de la rationalité était complètement erroné, complètement faux. Que les prémices de ce raisonnement étaient fausses. Et ça, évidemment, moi, en tant qu'historien de la Grande Guerre, ça m'a frappé parce qu'un certain nombre de pacifistes libéraux, pas socialistes, libéraux avant 14, disaient la même chose. Une entrée en guerre des grandes puissances à l'été 14 serait complètement irrationnelle. Elles vont se faire la guerre entre clients, elles vont se ruiner elles-mêmes. C'est parfaitement exact. L'argument est parfait. Il avait raison, sauf que la guerre a eu lieu quand même.
Mais par exemple, des pays comme la Pologne, eux, prévenaient et oui. Personne ne les écoutait. Est-ce qu'on les écoute plus aujourd'hui?
Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je n'ai pas les moyens de le savoir, mais ce qui me paraît évident, et ça me frappe beaucoup, c'est qu'en histoire du temps présent, avec évidemment les limites de toute histoire du temps présent, c'est qu'il me semble que les pays d'Europe occidentale ont rejoint de ce point de vue l'inquiétude qui était beaucoup plus profonde et ancienne des pays d'Europe orientale. Et on voit bien que du côté des états-majors, des services de renseignement, des politiques responsables, on nous dit, voilà, au fond, il y a risque de confrontation entre l'OTAN et la Russie. Au début de l'automne, c'était 5 ans. Maintenant, on nous dit plutôt 2-3 ans. Donc, le délai se rapproche et il me semble qu'il y a une forme de convergence de ce point de vue. Ça ne veut pas dire que les opinions publiques soient prêtes à admettre ce temps nouveau.
Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. Nous sommes en guerre. J'appelle tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, associatifs, tous les Français, à s'inscrire dans cette union nationale qui a permis à notre pays de surmonter tant de crises par le passé. Nous sommes en guerre. Et la nation soutiendra ses enfants qui, personnel soignant, en ville, à l'hôpital, se trouvent en première ligne dans un combat qui va leur demander énergie, détermination, solidarité. Nous sommes en guerre, oui. Nous sommes en guerre.
Nous sommes en guerre, prononcée à 6 reprises par le président Emmanuel Macron le 16 mars 2020. C'était pour se référer à l'épidémie de Covid en 2020-2021. Vous en parlez, Stéphane Audouin-Rouzeau, dans notre déni de guerre. Et vous parlez aussi de la métaphore de la guerre, de la sémantique. Il y a toute une partie sur la sémantique, puisqu'on en parlait aussi pour les attentats du 13 novembre 2015. Et vous dites que depuis 2022, nous sommes débarrassés des métaphores de la guerre.
Oui, ces métaphores ne pouvaient s'imposer de manière apparemment pertinente que parce que la vraie guerre n'était pas là. Et que nous étions effectivement dans un temps pacifié où l'utilisation de ce vocabulaire guerrier n'était pas démentie, hein, au fond, par un réel de guerre, ce que j'appelle la vraie guerre. Voilà, effectivement, depuis le 24 février 2022, la vraie guerre est là. Et je pense que, par exemple, voilà ce que l'on sait des souffrances hein, des pays en guerre, des souffrances de l'Ukraine en particulier, interdit maintenant de jouer avec les mots et de diluer le concept finalement, et de diluer le concept. C'est-à-dire que j'avais été très surpris, hein, comme historien, de ce vocabulaire si insistant, parce que pour qu'il y ait guerre, tout de même, il faut que la violence soit là et que la mort violente soit là. C'est le critère essentiel. Hein, c'est le critère essentiel. C'est un critère anthropologique extrêmement, extrêmement simple. Alors, la mort était là avec le Covid, mais pas la mort violente.
Vous dites dans votre ouvrage, enfin vous écrivez, l'auteur de ces lignes a bien conscience d'énoncer une hypothèse insupportable. Vous parlez de déni d'atrocité. Mais finalement, ce déni collectif de la guerre, c'est le déni collectif qu'on a depuis la nuit des temps concernant la mort.
Pas depuis la nuit des temps, je dirais pas ça. Je
pense que si on pense à la mort, on est paralysé.
Oui, mais je pense que nos sociétés modernes, effectivement, ont cherché à exclure la mort hein, du social, hein, de leur existence. Il suffit de voir la différence entre un faire-part d'aujourd'hui et un faire-part de 1914. Un faire-part de 1914, d'un soldat mort, vous avez 1,5 cm de noir qui borde l'enveloppe, qui borde la lettre. Il faut se rendre compte de ce qu'était la monstration du deuil. Hein, on ne cachait pas la mort, au contraire. Hein, on la mettait en exergue. Hein, ça n'enlevait rien à la douleur, au contraire. Aujourd'hui, il n'en est plus question. Ce serait considéré comme obscène. Et un gris très léger, et encore, hein, la mort ne se dit pas, le deuil est interdit. Personne ne penserait à rester 3 semaines en deuil dans son milieu de travail parce qu'il a perdu un compagnon, un père, une mère, etc. Ça serait considéré comme quasiment une agression visuelle. Donc notre relation à la mort a profondément changé. Et ceci ne favorise pas, évidemment, notre relation à la guerre, pour les raisons que j'ai dites.
To the marrow and them bones, why do I go your own?
Sobel, Riverside.
Ой, червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину піднімемо.
On entend une chanson patriotique ukrainienne datant de la Grande Guerre et remise au goût du jour, chantée partout au début du conflit, et ici par l'Ukrainienne réfugiée en Lituanie, Elisa, rejointe par un chœur de femmes. En 2022, c'est votre choix musical, Stéphane Audouin-Rouzeau.
Oui, c'est un choix un peu guerrier, hein, je le reconnais, mais je trouve ce chant qui s'appelle « Oh, les baies rouges de Viorne dans la prairie », la Viorne rouge, hein, est finalement une métaphore de l'Ukraine. Dans la chanson, la Viorne rouge est censée être couchée par le vent, etc., mais elle se redressera, la métaphore, évidemment, la signification est transparente. J'ai été très frappé, la musique fait bon ménage avec la guerre.
Vous avez dirigé l'ouvrage collectif « La grande guerre des musiciens ».
Voilà, exactement, et souvent, la chanson patriotique en temps de guerre est bouleversante. Et je trouve que cette chanson a été beaucoup chantée, semble-t-il, en Ukraine lors de la première année de guerre, y compris par des rockers qui se sont engagés et qui la chantent a cappella de manière absolument bouleversante, avec une énergie bouleversante. Et voilà, c'est une manière de rendre hommage aussi au courage ukrainien depuis 2022.
Puisqu'on parle de déni, vous reconnaissez vous-même volontiers que vous l'avez été à un moment, notamment quand vous vous êtes intéressé au génocide des Tutsis au Rwanda.
J'ai été totalement, oui. C'est moins peut-être un déni qu'une ignorance, une indifférence, qui est peut-être pire d'ailleurs. Parce que j'avais vraiment, j'étais équipé, si je puis dire, intellectuellement, sur le plan informationnel. J'étais professeur d'université, enfin, vous voyez, pour comprendre ce qui se passait tout de même. Et je ne l'ai pas vu, je n'ai pas voulu le voir. J'ai dit de manière la plus nette, et je le redis ici si vous voulez, qu'à mon avis, le racisme inconscient ici avait fait vraiment toute son œuvre. Et je n'ai découvert finalement cette inconscience, ce refus de voir que je déteste en théorie, mais dont on pouvait tous être victime. Je l'ai découvert au Rwanda en 2008, et là j'ai compris que je n'avais vraiment rien compris.
Le sujet central de cette épopée, c'est une période d'un mois entre le déclenchement de la guerre et de mon arrivée à Paris, le début de la nouvelle vie où je suis réfugié et où je refuse de parler ma langue maternelle. Parce que je suis qui, en fait, dans cette histoire? La seule réponse que j'ai eue, c'est je suis un traître envers ma patrie. Et pour la première fois dans ma vie, je me suis posé la question, est-ce que je suis vraiment ukrainien? Est-ce que je mérite d'être ukrainien? Et quand ça a commencé, j'ai eu une nécessité de rentrer chez moi et de mériter le pardon de mon pays en sacrifiant ma vie. C'est ce que je me suis dit.
On entend le jeune Ukrainien exilé Viktor Kirillov en 2025 au sujet de sa pièce « Maintenant, je n'écris plus qu'en français » au Théâtre de Belleville à Paris jusqu'au 24 février en ce moment. C'est la découverte que vous avez choisi de partager avec les auditeurs, Stéphane Audouin-Rouzeau.
Découverte absolument bouleversante, car cette pièce, donc, ce jeune auteur a écrite avec l'aide, la protection, je crois, de la Comédie-Française, où il est seul sur scène et où il raconte effectivement le fait qu'il est surpris par la guerre alors qu'il est dans, il est russophone, il est dans la meilleure admirateur de la culture russe, il en a la meilleure école de théâtre de Moscou, et puis il faut se séparer de ses amis. Le récit de cette séparation est quelque chose de bouleversant, et encore plus bouleversant quand il pense à s'engager, juste un coup de téléphone de sa mère qui dit « Mais si tu meurs, c'est pas l'Ukraine qui te pleurera, c'est moi. Qui sera en deuil ? Pas l'Ukraine, ça sera moi. » etc. Et finalement, donc, il ne s'engage pas, il fait cette pièce, et cette pièce qui se termine par un hymne pratiquement aux Français qui l'ont accueilli, comme on entend très peu, je peux vous dire, je vous recommande le spectacle, la salle est en larmes.
Maintenant, je n'écris plus qu'en français au Théâtre de Belleville à Paris jusqu'au 24 février. Merci beaucoup Stéphane Audouin-Rouzeau.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle que votre ouvrage, Notre déni de guerre, vient de paraître dans la collection Libelle aux éditions du Seuil. Et à cette occasion, vous serez au Théâtre de la Concorde à Paris le mardi 24 février pour une présentation du livre. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Anaïs Boucher et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Mélissa Étroit.